Bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur de présenter donc Véronique Cohn. Je suis Béatrice du blog Béatrice Petit Demange Épanouissement 50 plus. Et Véronique est donc une super psychologue que je recommande fortement, une psychothérapeute, une conférencière que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, je mettrai des liens. Et aussi auteure de deux livres. Donc le premier livre que tu as écrit, Véronique, c'est celui-là. Quel amoureux êtes-vous avec les cinq profils psychologiques? Et le deuxième que tu as écrit il y a récemment d'ailleurs, quand la peur de perdre l'autre me le fait le perdre. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ça. Ensuite, donc le thème d'aujourd'hui, ça va être l'épanouissement dans la relation amoureuse. Et j'ai donc quelques questions pour toi, Véronique, parce que tu es spécialisée donc dans les relations amoureuses. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la
Non,
présentation.
non, c'est parfait ce que tu as dit, c'est très très bien.
C'est
Je ne
très
vais pas
bien.
rajouter autre chose sur ma biographie, mais plutôt de répondre aux questions de qui intéressent notre public.
Oui. Alors, la première question, donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'épanouissement dans une relation amoureuse après 20 ans de relation au mariage? Alors, moi, je suis plus orientée vers la femme, mais ce sera intéressant aussi de savoir pour l'homme, parce qu'on parle tout le temps de la femme, mais bon, faire un et l'autre. Ok.
Ben, le problème, c'est les cristallisations. Si au bout de 20 ans de mariage, il y a des habituations, il y a surtout des névroses complémentaires qui s'emboîtent. Et donc, si les deux partenaires du couple n'ont pas identifié quels sont leurs schémas répétitifs qui se répètent, sur lesquels mes blessures tapent sur tes blessures, et donc ils vont provoquer ce qu'on appelle la non-acceptation des différences, parce que souvent, dans une des étapes du couple au long terme, cette histoire de fixer sur j'accepte pas ta différence, j'ai du mal à fonctionner avec toi parce que ça rippe, tu vois, tu me heurtes dans ma vision du monde et par rapport aux blessures que j'ai, par exemple, j'ai été abandonnée petite ou j'ai eu des problèmes. Avec des personnes parentales qui m'ont pas assez choyé. Et donc, je projette sur toi que tu n'es jamais assez stable, assez fiable, assez là pour moi, assez attentionné, etc. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, du coup, bah, l'autre va appuyer sans me stimuler sur mes blessures. Et si tu veux, ce qui va empêcher l'épanouissement, au bout d'un certain temps, c'est on se connaît tellement que, par exemple, je me suis résignée. Je ne crois plus que tu peux être différent. Et donc, je ne peux pas te prendre à l'endroit de ta différence parce que je sais que tu es comme ça. Et donc, laisse tomber. Et donc, tu vois?
Donc, j'ai envie de prendre un exemple que moi je vois souvent enfin, au supermarché, parce que je vois souvent, tu sais, les couples de certains âges qui font les courses ensemble, et tu vois la dame, par exemple, qui est assez nasée, enfin, je sais pas comment on dit en français, mais. Elle traite un peu mal son compagnon ou son homme ou son mari. Donc c'est ça la réaction de la personne, de la femme quand elle est habituée, disons, elle a laissé tomber, mais elle est quand même, il y a de la colère quand même dans ça, j'ai
Il y
l'impression.
a le parent persécuteur qui est tu devrais être autrement, tu n'es pas conforme à mes attentes. La relation de couple, et notamment celle à long terme, mais celle à court terme, elle va déceler énormément d'attentes. On a des attentes par rapport à ce qu'on imagine qu'un compagnon doit faire, doit être, doit se comporter, etc. D'accord? Ce qui a beaucoup moins dans la relation amicale où on n'attend pas tant que ça. Mais les attentes déchues, hein, si tu veux, vont créer justement. Ce côté, je te fais des reproches, tu es toujours un, tu fais pas comme il
C'est ça.
faut, voilà. Et donc chacun va reprocher à l'autre, ben, tous les endroits de heurts, de frictions, d'incompréhension, d'attentes déçues surtout.
Oui, c'est ça. Donc, toutes ces attentes-là viennent pratiquement des propres blessures qu'on n'a pas été voir nous-mêmes, donc.
Alors ça, mais c'est les conséquences de nos blessures.
Oui.
J'ai pas eu un papa ou une maman assez attentionné à mon égard, ou qui n'a pas répondu à mes besoins. Donc, je vais estimer, je vais attendre que mon compagnon me répare, me donne ce dont j'ai manqué. Il ne m'a pas assez valorisé, encouragé. J'attends que mon compagnon, voilà, m'encourage. Ici, par exemple, dans ton exemple des courses, j'attends qu'il me soutienne, qu'il soit attentionné, ou qu'il fasse les choses comme j'aimerais qu'il les fasse. Tu vois, mais il ne comprend toujours pas. Donc, il y a un endroit d'imaginer que l'autre est télépathe et qu'il doit se comporter Il doit deviner mes attentes et il doit se comporter comme moi, je décide qu'il devrait se comporter.
Comporter. Ça devient compliqué tout ça, et simplement parce que moi, je ne sais pas reconnaître mes besoins et je ne sais pas les exprimer. Je ne sais pas dire à l'autre, voilà, au lieu de dire j'attends, je dis moi j'ai besoin que tu fasses ça. Ça,
Par
c'est comme ça.
exemple, de clarifier déjà, de faire une proposition plutôt que de faire un reproche. Tu vois, tu ranges pas les courses ou tu sais pas acheter les légumes.
Oui.
Genre, tu es toujours nul, tu es incompétent, quoi. Hein.
Oui.
Donc, c'est un exemple bah, de dire qu'est-ce que je veux, tu vois,
Oui,
plutôt que
c'est ça.
de dire bah, qu'est-ce que je voudrais. Ça serait sympa si tu pouvais. Voilà. Donc,
Oui.
de transformer les reproches en propositions, c'est déjà pas mal comme piste, tu vois.
Oui. Mais
Après,
pour faire.
l'autre, il ne fait pas. S'il ne fait pas parce qu'il n'est pas compétent ou que ça ne l'intéresse pas, en général, par exemple, sur le ménage, les courses et toute la logistique pour les femmes, les hommes sont moins affairés là-dessus. Pas tous, mais il y en a qui sont obsessionnels du ménage, mais la majorité, ils s'en foutent un peu. Parce que s'ils étaient tout seuls, ils ne se feraient pas tant de courses que ça, ils ne se feraient pas tant de ménage que ça. Enfin, tu vois,
Oui.
ils n'en font pas une affaire d'État. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est que ça les intéresse moins et que ce n'est pas un sujet.
Oui.
Voilà, donc ce qui est important, il faut comprendre que aussi ce qui va beaucoup frictionner dans les couples, c'est les valeurs. Ce qui est important pour moi en tant que femme, par exemple, n'est pas important pour toi en tant qu'homme.
Oui. Et
Et
comment on
donc,
résout
du
un
coup, il
problème
y
de
a un
ce
décalage.
genre? Et comment tu résous un
Et
problème de ce genre?
déjà en discutant, hein, en voyant que je crois que ce qui est important pour moi devrait être important pour toi, de fait, alors que non. Déjà, je peux commencer à voir que l'autre n'a pas le même cadre de référence que moi. Et que bah, sur la question de la logistique, par exemple, bah, voilà, pour lui, ce n'est pas un essentiel de faire le ménage toutes les 5 minutes. Donc, c'est à moi de prendre ça en charge. Ou c'est moi qui le fais et je râle pas, mais j'arrête d'attendre ce que l'autre ne considère pas comme important. Ou alors, j'en parle à mon partenaire et on voit qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas. Par exemple, sur le ménage, ce sur quoi il peut lâcher, il peut faire un pas vers moi, ce sur quoi il ne peut pas, parce que sûrement, ça, ce n'est pas son truc d'être maniaque du matin au soir, tu vois.
Oui. Et du coup, ben, on se paie une femme de ménage, comme ça on résout le problème aussi, non?
Ça peut être une négociation, ça peut être une issue de la
Oui.
négociation. C'est bah, puisque j'ai pas envie de me taper le ménage pendant 3 heures alors que toi tu es obsessionnel du ménage, bah, on va se payer une femme de ménage et puis comme ça tout le monde est content. Tu vois,
Voilà.
mais ça a été négocié, ça a été mis sur le tapis, genre solution, problème, solution.
Même
Par la
solution.
négociation, on a identifié le départ qui est ce qui est important pour moi ne l'est pas pour toi. Je ne peux pas passer ma vie à te faire le reproche que tu n'aimes pas faire le ménage. Parce que tu ne vois pas les choses comme ça, comme moi. Et donc, quelle solution on peut trouver qui nous arrange tous les deux, finalement? Donc, ça peut être la femme de ménage, par exemple. Ça peut être une autre idée, tu vois.
Oui. Très bien. J'aime bien l'histoire de la femme de ménage. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent empêcher une femme après les 50 ans de s'épanouir dans une relation amoureuse?
Bah, y a plein de raisons, hein. C'est d'en vouloir, d'avoir du ressentiment. Parce que si tu veux, le problème des relations longues, c'est qu'il y a des antériorités. Donc, on nourrit le ressentiment. On ne peut pas faire autrement, d'ailleurs. Il y a quelque chose un peu d'incontrôlable là-dessus, de se dire, il m'a fait ça dans le passé et je ne lui ai jamais pardonné en quelque part. Ou il peut recommencer. Ou il n'a toujours pas compris que c'était essentiel pour moi. Voilà. Donc, il y a toutes ces histoires-là qui traînent pour fermer le cœur, en fait. Hein. Et donc, si je ferme mon cœur, il faut comprendre, il faut entendre ça, c'est important. Si je ferme mon cœur à l'homme qui est soi-disant mon allié, ça veut dire que je ne suis pas en sécurité avec lui. Donc, je me méfie. Il y a des endroits où la relation est chouette, mais il y a des endroits où je me méfie de lui. Je me dis, oh, ça va recommencer. Oh, il a toujours pas pigé. Oh, il peut pas faire autrement. Et donc, je suis en mode insécure. Et si je traîne de la méfiance, si je n'ai pas confiance en l'autre, ben, il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Hein. Je veux dire, la base de notre système nerveux, c'est de se sentir en sécurité. Donc, si mon partenaire préféré, qui est censé être mon allié et mon ennemi, tu vois, je suis toujours sur mes gardes, je ne peux pas me déposer, je ne peux pas être non plus dans la tendresse, je n'ai pas d'élan de tendresse puisque je suis en méfiance. C'est mon ennemi. Donc, je ne peux pas être là dans des élans d'ouverture du cœur. Mon cœur est fermé, en partie. Tu vois? Donc, ça, il faut le travailler. Il faut voir les endroits. C'est extrêmement important. Quand j'ai du ressentiment comme ça que je nourris et que j'ai toujours pas l'impression qu'il m'a fait ses excuses ou que je lui ai pardonné, etc., il va falloir faire un travail pointu sur quelles sont les zones où j'aimerais avoir des excuses de sa part. ou je ne lui ai toujours pas pardonné. Alors ça peut être je ne lui ai pas pardonné, ça peut être je ne me suis pas pardonné, tu vois aussi, d'avoir agi comme ça, hein, ou d'avoir laissé passer, d'être retourné dans la relation alors que c'est pas quoi, tu vois. Donc cette histoire de pardon est intéressante parce que c'est des blessures non digérées. C'est important de les clarifier.
Oui.
Faire par exemple un rituel de pardon là-dessus pour remettre les pendules à zéro. Tant que la sécurité n'est pas au rendez-vous, ça va bugger. Donc, il faut toujours veiller sur est-ce que je me sens en sécurité avec ce partenaire que j'ai choisi comme époux, mari, compagnon ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va en discuter, soit entre nous si on y arrive, si on n'y arrive pas, on le fait avec un intermédiaire, un médiateur. Et après, on va essayer de voir qu'est-ce qui augmenterait le sentiment de sécurité en trouvant chacun des partenaires, des idées, faire des propositions pour augmenter le sentiment de sécurité à l'intérieur de la relation. Donc,
Donc
mais on est copartenaire pour trouver des idées quand même.
oui, dans ce cas-là, toi, tu conseilles donc une thérapie de couple.
Par exemple, ou de la médiation,
Ou si la
ou de la
femme a vraiment
communication non
perdu
verbale.
beaucoup confiance en son homme, est-ce que tu conseilles aussi, par exemple, de commencer par elle-même à faire une thérapie toute seule,
Certainement.
et puis après le proposer à son mari ou à son compagnon, disons.
Ou en parallèle, parce que déjà, il faut pointer les endroits où le ressentiment se nourrit dans le couple, tu vois. Où je suis toujours en train d'être sur mes gardes, où je lui en veux, et je ne peux pas me détendre, et je ne peux pas l'aimer. Je ne suis pas ouverte, en fait. Il y a une fermeture. Et donc, toutes ces fermetures successives, à répétition, créent les tensions dans la relation. Et donc, ça, ce n'est pas chouette. Donc, du coup, il faut les élucider. Donc, la thérapie individuelle, on va plus travailler sur l'épanouissement de l'individu pour lui-même, tu vois, moins sur la relation de couple. Parce qu'en fait, on n'a qu'un son de cloche. Quand on a la personne en
Oui,
elle-même,
tout à
on va
fait.
dire, bah oui, t'as raison de voir ça comme ça. Il exagère. Enfin bon, je sais pas, on va cautionner le point de vue puisqu'on fait l'alliance avec notre patient. Donc, on est plutôt dans. On comprend notre patient de son point de vue, de sa fenêtre. Par contre, on n'a pas l'autre point de vue. Donc, on ne peut pas être toujours très objectif puisqu'on va cautionner le point de vue de notre patient. Si c'est ça. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est qu'en thérapie de couple qu'on va un peu y voir plus clair sur chacun son point de vue, comment les blessures tapent l'une sur l'autre. C'est un peu différent comme point de vue. Hein. C'est la même perspective, en fait. Donc, les
Je
deux
trouve
peuvent être faits en parallèle. Hein.
en parallèle, ça veut dire qu'avec deux thérapeutes différents ou avec le
Alors,
même?
moi, sur ce. Alors, chaque thérapeute, alors, il y a des thérapies où, justement, selon. Il y a des écoles de thérapie où disconnecte, hein, on fait pas. On prend le couple à part et on prend chacun son thérapeute séparé. Moi, ça peut m'arriver de prendre séparément les deux et de faire des séances de couple, tu vois. Mais pas forcément. Après, je vais évaluer. C'est au cas par cas. Je vais évaluer personnellement si ça vaut la peine de continuer à les prendre séparément ou d'en envoyer un chez un
Quelqu'un
thérapeute
d'autre.
qui, justement, va le prendre personnellement parce que voilà, c'est mieux pour lui d'avoir son thérapeute séparé. Voilà. Mais c'est vraiment à évaluer. Et s'il y a une crise vraiment paroxystique entre eux, c'est mieux par rapport à l'idée qu'ils se font de la confidentialité. Dire, oh ben alors là, il va y avoir des infos qui vont circuler de l'un à l'autre si elle a les deux. Donc voilà, c'est au cas par cas, mais je décide de ce qui est le plus adapté en fait par rapport à chaque cas. Quitte à des fois dire non, là je peux plus vous prendre tous les deux ensemble parce que là vous êtes vraiment en mode méfiance l'un sur l'autre et que chacun a raison pour sa gouverne en fait. J'ai pas, tu vois, à me positionner, à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc là, c'est mieux de voir ça. Mon thérapeute, tu vois.
C'est très intéressant tout ce que tu dis parce que ça ouvre beaucoup de possibilités aussi de comprendre que chaque individu est différent et on s'adapte aux exigences, quoi.
Et
Alors,
au
moi, je
contexte.
pense, oui, c'est ça, en contexte, oui, c'est ça. Situation, contexte, aux personnes. Je pense que je peux te faire la dernière question
Bien sûr,
et puis
plaisir.
on en fera encore des interviews comme ça. C'est adorable, je dois dire. Ah, ça c'est une super question, je trouve. Est-ce que la passion dans une relation peut être épanouissante?
Oui et non. Moi, de toute façon, je fais toujours thèse et antithèse. Mais oui, parce qu'il y a le feu, hein, et donc la flamme de la passion. Il y a quelque chose de vivant, hein, dans la passion, dans l'intensité, puisque ça va amener de l'intensité. Maintenant, la ressource peut être le problème. C'est-à-dire, on le sait, toutes les états passionnels sont des états amoureux un peu exacerbés, exaltés. Et donc, il y a des zones aveugles, il y a en général beaucoup de éros ou beaucoup de volonté de capter partenaire, hein. Il y a de la possessivité en général, que ce soit sur le plan sexuel ou pas d'ailleurs, mais il va y avoir l'envie que le partenaire soit unique et à moi, rien qu'à moi. Ça peut avoir sa place, mais il y a un endroit où on peut se faire souffrir à l'idée de le perdre. C'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin, hein, donc de créer de la dépendance affective ou sexuelle et de manquer et de croire qu'il est indispensable à notre vie et tout ça, quoi, toutes ces histoires-là. Et donc, du coup, ça peut amener beaucoup de souffrance avec cette idée du manque de l'autre, d'avoir un objet d'attachement sur lequel on croit sérieusement que, on en a besoin et que du coup, on passe son temps à être envahi. Tu vois, à se dire, oh là là, on pense tout le temps à lui, et il est notre personnage central. En fait, on se raconte toute une histoire. Et du coup, bah, on peut se faire beaucoup souffrir avec la passion. Donc, oui, pour le côté vivant. Tant que ça reste une ressource. Si ça devient un problème, voilà, ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est pas très intéressant d'alimenter le stress parce qu'on peut somatiquer, parce que on peut être dans le mental et le mental, il s'agite et il fait croire tout et n'importe quoi. Le mental divise. Donc tout est vrai, tout est faux, on se raconte plein de conneries. Donc du coup, c'est important de voir qu'on peut beaucoup s'enflammer. Avec le mental, et donc se faire énormément souffrir émotionnellement, et notre organisme peut être débordé par ça, quoi. C'est pas très simple.
J'ai envie enfin, de rajouter quelque chose et puis tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas. J'ai l'impression que la passion est une ressource à partir du moment où on sait poser ses limites.
Oui, bah, mais pour poser ses limites, il faut déjà voir que la passion peut devenir un problème. C'est plus une ressource, tu vois. Identifier, ben, de nouveau, qu'est-ce qui fait que je m'accroche désespérément ou je le rends indispensable ou je suis dans le manque, c'est une drogue, hein, c'est une drogue. Et justement, de s'engager vers l'autonomie. Mais pour s'engager vers l'autonomie et le décider vraiment, il faut déjà voir quel est le schéma que je répète qui fait que je m'accroche. Je ne peux pas lâcher ce partenaire. Et en général, ça rejoue les figures parentales et donc on retrouve les traumatismes de l'enfance, du développement. Voilà, on va vite voir les manques et les carences qui se répètent à l'infini. Alors, on rechoisit les partenaires ad hoc, hein, pour tenter de dépasser ce qu'on n'a pas pu dépasser quand on était petite ou pour tenter d'avoir ce qu'on n'a pas eu. Par exemple, on ne me considérait pas, j'étais plutôt. Invisible dans la vision de mes parents. Enfin, j'avais pas ma place, ils me donnaient pas ma place. J'étais pas reconnue. Et donc, je vais trouver des partenaires avec qui je vais revivre ça, comme si j'ai l'espoir que peut-être avec ce partenaire-là, je vais avoir ce que j'ai pas reçu de mes parents, par exemple. Donc, je choisis des partenaires ad hoc, en fait. Sauf que comme j'ai pas su déjà être aimée d'eux, être reconnue d'eux, forte chance que je vais reproduire le truc. Je vais me resoumettre au même schéma, il ne va pas me reconnaître, il ne va pas me voir, il va en préférer une autre, je ne sais pas quoi. Bon, et je ne vais pas prendre ma place, je ne sais pas prendre ma place. Et donc, je répète inlassablement le schéma. C'est pour ça que souvent, la thérapie peut aider déjà à y voir un peu plus clair.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut commencer à voir nos automatismes.
Voilà, tu as raison de
Mais
parler d'automatisme. On appuie sur le bouton, hop, ça part en
ah, ça
automatique.
part. Ah oui, tout à fait. Moi, je le vois très bien. Le pire, c'est que je le reconnais et je dis, oh là. Mais bon, ça va se
Alors,
faire.
là, c'est le première étape de la guérison, hein, qui est je vois que quand l'autre appuie sur le bouton, voilà ce que ça fait chez moi. Et ça, c'est une réactivation, je suis au courant que ça, c'est une ré ré réactivation, une restimulation de ce que j'ai vécu dans l'enfance qui n'a pas été digéré et qui est toujours là, en fait, hein, c'est toujours dans mon disque dur. Donc, à un moment donné, où j'ai les moyens de pouvoir passer au-dessus, donc de ne pas être stimulée, ou j'y arrive pas. Parce qu'il y a des marquages indélébiles, quand même, hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, quelqu'un passe par là, paf, en automatique, tac, et des fois tu es débordé, on le sait parce que tu es débordé à la minute, débordé émotionnellement, enfin tu n'as pas de marge en fait. Tout de suite, ça ah, fuit ou attaque, enfin, tu étais complètement débordé. Alors que d'habitude, bon, ça va, quoi, tu vois. Si ce n'est pas ton partenaire, par exemple, bon, ça ne fait pas ça. Donc, il y a un truc de réactivation que tu sais, tu es au courant que tu es dans une conduite automatique de réactivation de tes schémas de blessures de l'enfance. Déjà, c'est énorme parce que tu peux dire,
Énorme.
bon, j'ai les moyens de gérer cette personne ou pas? Ou est-ce que je prends de la distance pour traiter, analyser l'info? Est-ce que je me ressource? Donc après, tu as du choix que tu n'as pas sinon.
Tout à fait, tout à fait. Et puis tu peux même savoir que tu vas aller dans une situation qui peut te mettre à l'épreuve. Et moi, j'en suis bien consciente. Enfin, je parle pour moi là, mais c'est quand tu as fait un travail sur toi, tu reconnais ton automatisme, tu dis, OK, là, j'y vais avec les risques que cela concerne aussi. Parce que bon, autrement, ben, on reste chez soi et puis on fait rien, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour
Ça
ça.
s'appelle l'évitement, ça, c'est pas bon non plus.
Non plus. Mais quand tu vas dans une relation après, c'est quand même un peu plus libre qu'avant, disons, je dirais ça. Voilà.
Ça, tu te connais mieux, tu as plus d'options, tu sais que
C'est
tu peux
ça.
surréagir comme ça. Et donc, déjà, oui, tu agrandis les options, c'est le travail de thérapie.
Puis tu peux
Je
même le dire
peux.
au partenaire, tu peux même lui dire, je dis, écoute,
C'est
moi
quand
je
même
suis
bien.
différente, je vais réagir,
Oui.
quoi. Mais bon, on
Alors, tu
s'affiche
donnes les
tous.
codes, donc tu donnes les codes à l'autre, tu prends ta part de responsabilité, tu dis bah, je suis désolée, au lieu de dire de blâmer l'autre, de dire bah oui, c'est moi qui suis blessée, je me sens en insécurité, donc effectivement, c'est pas constructif, mais bon, je suis désolée, mais quand tu fais ça, moi je me sens voilà, je peux pas faire
C'est ça,
autrement que
tout à fait.
t'attaquer ou te
Tout
faire
à fait.
reproche, parce que je suis débordée. Voilà. Et donc, ça va quand même donner une communication plus saine et c'est comme si tu te réappropries ta part. Et t'es posé, quoi. Tu te poses parce que tu analyses et tu traites l'info. Au lieu de rester dans la surréactivité, j'ai raison, t'as tort. Hein.
Tout à fait. OK, Véronique. Alors, merci pour le moment pour cette première partie. Il y en aura sûrement une autre. Après, on verra s'il y en aura encore des autres. Mais merci beaucoup.
Avec
C'est très
plaisir.
gentil d'avoir accepté cette interview.